parler un peu de l'aspect historique et je vais vous dire, vous expliquer ce qui a eu lieu, ce qui s'est passé et donner des perspectives. Alors, attendez, je cherche mes documents. Ah, les voici. Donc, on va commencer en 1915-1916. Beaucoup de déplacements en Europe et presque partout en Europe, il y a eu l'introduction d'encadrement des loyers sur la base du premier loyer de 1915. Et sur le plan politique, il était absolument nécessaire de le faire, mais personne n'avait réfléchi à ce qui se produirait sur le long terme. Les prix étaient en augmentation. Et bon, ce contrôle des loyers était censé être temporaire. Mais dans la pratique, cela a pris beaucoup de temps au marché du logement pour revenir à une situation normale. Ça n'a commencé que dans les années 30, à la fin des années 30, et notamment au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et beaucoup de pays avaient conservé leur système des années 1915-1916. Et donc, les bailleurs n'avaient pas beaucoup d'argent pour la mise en location de leurs biens. Ils avaient du mal à les entretenir, leurs biens. Et quand il y avait des systèmes en place de transfert de la propriété du bailleur au locataire, eh bien, les bailleurs avaient tendance à saisir cette possibilité. Par la suite, on a vu une réduction de l'encadrement des loyers et on est davantage passé à des loyers qui sont fixés sur la base du marché. On a vu une détérioration des normes. Il y a eu des transferts de propriétés, la construction de nouveaux bâtiments, notamment également des logements sociaux. Certains pays, l'Angleterre par exemple, mais également la Norvège par exemple, sont passés de systèmes avec de très forts contrôles à une situation où il n'y avait presque aucun contrôle sur le marché des loyers. Mais la plupart des pays en Europe ont commencé avec ce qu'on appelle la stabilisation des loyers, à savoir, on pouvait changer le loyer en cours de bail, mais pendant le bail, le bailleur ne pouvait modifier le loyer que dans des circonstances bien précises, sur la base de certains critères, par exemple l'efficacité énergétique. Et donc voilà, il y a le même système aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suède. Ce système de stabilisation. Mais au cours des dernières décennies, il y a une énorme augmentation des règles au niveau des municipalités de contrôle des loyers. Dans certains pays, c'est le cas. Dans certains pays, ce n'est pas encore le cas. La plupart des systèmes d'Europe occidentale ont une sécurité de bail, à savoir que les personnes qui ont un bail peuvent rester aussi longtemps qu'elles le souhaitent. L'Angleterre et le pays de Galles et l'Écosse, ainsi que l'Irlande, se distinguent par l'absence de contrôle direct des loyers et par l'existence de baux à court terme, parfois d'un an, même moins. Mais cela a commencé à énormément changer. Les pays avec des systèmes réglementaires relativement stables, qui ont conservé la situation de base. Et ça, c'est vraiment influencé par la politique nationale. Ce sont des pays dans lesquels il est plus difficile de devenir locataire attributaire. Les systèmes avec des systèmes réglementaires stables sont généralement les pays dans lesquels la location publique était davantage la norme et dans lesquels il y a une augmentation structurée des loyers. Il y a des pays, par exemple le Danemark, qui ont supprimé tous les contrôles après 1991. Et nous avons déjà parlé des Pays-Bas, je pense, sauf erreur de ma part. Donc, il y avait un système sans contrôle et le passage à un système avec des contrôles, car dans la plupart des pays d'Europe occidentale, la part du loyer est de plus en plus importante et il est de plus en plus difficile pour les citoyens de devenir locataires attributaires et la part des logements sociaux a diminué dans la plupart de ces pays d'Europe occidentale. Et donc, la proportion de personnes qui vivent dans des logements loués sur le marché privé augmente. Et donc, c'est davantage, il y a davantage de locataires que de bailleurs. Mais il y a également une pénurie de logements privés, ce qui a eu pour effet de faire pression sur les loyers et sur le caractère économiquement abordable de ces loyers. Et il y a également eu l'augmentation des taux d'intérêt qui a joué un rôle. Et alors, comme cela a également été mentionné plus tôt, il y a eu de nouveaux participants. Auparavant, le secteur privé, c'était des petites entreprises qui avaient la main dessus. Mais aujourd'hui, ce sont de nouveaux types d'investisseurs, parfois institutionnels, parfois de l'étranger, qui essayent d'avoir des retours sur investissement en investissement dans des logements sur le long terme. Et donc, ces acteurs institutionnels apprécient des systèmes dans lesquels la situation n'évolue pas beaucoup, à savoir qu'ils savent exactement comment vont évoluer les systèmes en place, comment vont évoluer les loyers, etc., afin qu'ils puissent avoir un retour sur investissement raisonnable. Ils recherchent ces acteurs institutionnels des garanties à long terme. Et alors, un petit nombre d'investisseurs en fonds propres recherchent également des gains en capitaux à court terme, beaucoup d'argent rapidement, et donc cherchent parfois à changer de locataire au plus vite pour obtenir des loyers plus élevés. Cela a été la source de nombreuses préoccupations. Les logements ne sont plus considérés comme des foyers, mais plutôt comme des actifs à capitaliser avec lesquels on peut faire des recettes, gagner de l'argent. Et ce qui a eu un impact très important sur les foyers à bas revenus. La financiarisation, comme on l'appelle souvent, est également considérée comme une raison majeure de l'augmentation des loyers et de la gentrification dans de nombreuses villes européennes. On identifie souvent ce phénomène comme le problème Blackstone. Il y a d'ailleurs une législation qui s'appelle la législation Blackstone, l'objectif de cette législation Blackstone est de trouver une correspondance entre la qualité des logements et les prix demandés. Donc voilà, un lien entre l'efficacité énergétique des bâtiments et le loyer. Mais dans de nombreux cas, les franges les moins aisées de la population ne peuvent pas se payer ces loyers. Donc le secteur de la location a encore monté d'un échelon au niveau des prix. Et c'est également au niveau national, pas seulement au niveau municipal, dans de nombreux pays. Et il y a eu des augmentations de la pratique du contrôle des loyers suite à cette situation. Alors, pour ce qui est du contrôle des loyers, les locataires sont généralement en faveur. S'ils trouvent un logement qu'ils peuvent prendre en location et qu'ils s'y sentent en sécurité, alors ils sont tout à fait heureux d'avoir une limite des loyers, un contrôle, un encadrement des loyers. Mais bon, c'est sans doute principalement dans les grandes capitales, dans des zones bien déterminées, que de tels encadrements des loyers sont adoptés. Mais pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait des contrôles, notamment dans les zones sous pression. Mais il y a une tendance, notamment en Allemagne et en Irlande, de plutôt concentrer l'encadrement des loyers dans les zones rurales, là où il n'y a pas nécessairement une demande élevée, ce qui a également une incidence sur les plus faibles revenus. Mais bon, comme je vous le disais, c'est surtout ce genre de procédure a surtout lieu au niveau régional, au niveau municipal. Alors, le contrôle des loyers est généralement pointé du doigt comme étant responsable de la réduction du nombre de logements disponibles. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Car, par exemple, dans de nombreux pays d'Europe, notamment là où il y a beaucoup de touristes, ou alors beaucoup de locations à court terme, il y a des locations à court terme de courte durée qui ne relèvent pas de ce système d'encadrement des loyers. Les propriétaires qui veulent maximiser le retour sur investissement décident plutôt de louer leur logement à des touristes ou alors à des personnes qui vont les louer pour de courtes durées et donc plus cher. Et cela représente un problème important dans le contrôle efficace, l'encadrement efficace des loyers. Et alors, autre problème, dans de nombreux pays, les systèmes de protection sociale sont beaucoup moins généreux que par le passé, notamment pour les loyers à plus faible revenu. Par conséquent, ces foyers à plus faible revenu ont beaucoup plus de difficultés à payer le loyer. Ensuite, il y a l'inégalité des revenus qui se creuse encore et encore. Alors, laissez-moi vous présenter certaines initiatives dont vous avez peut-être déjà parlé. L'Allemagne a véritablement, bon, quand je dis l'Allemagne, c'est plutôt Berlin d'ailleurs, hein. Alors, en fait, au niveau national, à partir, ou plutôt depuis 2013, des contrôles supplémentaires de loyers ont été introduits en Allemagne, dans les zones où le marché des logements est le plus tendu. Des zones qui, par le passé, n'avaient pas connu de telles tensions. Et donc, ce qui a été fait, grosso modo, c'est que les loyers initiaux étaient limités à 10% au-dessus du comparateur local. Et dans le même temps, l'augmentation autorisée des loyers dans les locations existantes avait été réduite de 20% à 15%. Et alors à Berlin, des contrôles beaucoup plus stricts ont été écartés par le gouvernement central, et donc les loyers devaient être payés, quoi qu'il advienne. Donc ça, c'est peut-être le cas extrême. Bon, ce qu'ils ont essayé de faire était assez dur, à savoir que les bailleurs n'étaient pas, certains n'avaient pas la garantie d'avoir un retour sur leur investissement. Mais en plus de cela, il y a eu, il y avait des incitations à investir dans un autre secteur. Ensuite, la France, qui a un système dont on a parlé, il y a des agglomérations, des villes avec des marchés de logements tendus qui ont été identifiés et qui peuvent demander à piloter des mesures de contrôle des loyers pendant une durée de 5 ans. Paris a été la première d'ailleurs juridiction à mettre en œuvre la mesure en 2019 sur la base des loyers de référence. Et ensuite, les Pays-Bas l'ont fait de manière beaucoup plus structurée en élargissant le marché, le secteur du marché libre. La Hollande a été largement déréglementée. Ah non, l'Irlande plutôt, l'Irlande, pardon, a été hautement déréglementée, puis est passée à une approche générale selon laquelle les loyers doivent être conformes aux loyers du marché local pour des propriétaires similaires. Et ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé par le passé. Il y a eu une extension de la période de 3 ans. Pas suffisamment de contrôle et une formule prescrite de 4% maximum par an. Et ça, c'est ce qui est actuellement en cours. Ensuite, bon, depuis les dernières années, il y a eu l'inflation et donc cela commence à poser véritablement problème. Bon, le cas le plus intéressant, c'est l'Espagne. À mon sens, il y a la Catalogne qui a des pouvoirs régionaux. Elle a introduit une loi sur le contrôle des loyers. C'était en 2020, mais elle a été annulée, cette loi, par la Cour constitutionnelle. Et ensuite, le gouvernement national, lui, a introduit une loi sur le droit au logement qui permet aux gouvernements régionaux de mettre en place un contrôle des loyers. Il y a énormément de pression politique pour le contrôle des loyers, beaucoup d'incertitudes sur la manière de procéder afin de rendre un tel système viable sur le long terme pour les bailleurs, tout en garantissant la protection des locataires. Jusqu'à présent, peu d'éléments indiquent que ces changements ont eu un impact sur la préparation des investisseurs à investir. Et cela peut s'expliquer en partie par le fait que des contraintes plus fortes n'ont pas été mises en œuvre. Notamment, la plupart des locataires ne se plaignent pas, ont tendance à ne rien dire, à moins que le loyer soit complètement disproportionné par rapport à la réalité du marché. Et dans certains pays comme l'Allemagne, l'Espagne et la France, les législations qui ont été pourtant adoptées n'ont pas été mises en œuvre et contrôlées comme cela aurait dû être le cas. Et bon, les locataires en général ont plus tendance à faire profil bas. Et pour ce qui est des coûts de mise en œuvre, eh bien, ceux-ci peuvent être extrêmement élevés. Mais bon, à ce stade, tout cela continue à faire débat. J'étais très intéressé d'apprendre quel est le système de contrôle des loyers à Bruxelles. Si on ne tient pas compte de l'emplacement, qui est une partie essentielle de ce que l'on vend ou de ce qu'on loue dans le contrôle des loyers, eh bien, sans tenir compte de l'emplacement, eh bien, cela pose tout un ensemble de problèmes. Comment savoir sans cela si les loyers sont déraisonnables? Alors, nous sommes dans un monde dans lequel on essaye d'améliorer les standards, les normes, d'avoir plus d'efficacité énergétique et tout cela complique encore la donne. Aujourd'hui, beaucoup d'investissements ne sont pas faits, mais surtout parce que les ménages à faible revenu n'ont pas les moyens. Et donc, au cours des 10 dernières années, nous avons connu un changement radical. Nous sommes passés d'un sens un système sans contrôle à un système avec beaucoup de contrôle. Et avec cela, il y a également une augmentation du secteur privé de la location dans de nombreux pays. Et la location-attribution a été compliquée, rendue plus compliquée dans de nombreuses parties de l'Europe. Mais le contexte a beaucoup d'importance. Par exemple, l'Allemagne, pendant 30 ans, avait une faible inflation et la chute des prix de l'immobilier pendant de nombreuses années ont facilité la stabilisation des loyers. Et c'est uniquement lorsque les tensions de la croissance rapide de la population à Berlin et dans d'autres grandes villes allemandes que l'Allemagne a commencé à réintroduire, d'abord au niveau national puis au niveau local, des contrôles des loyers. Mais il y a encore eu de nombreuses exceptions, par exemple l'efficacité énergétique, encore les améliorations énergétiques qui permettent aux loyers d'augmenter. Mais tout cela doit se faire en accord avec le locataire. Si le locataire est d'accord, il sera d'accord de contribuer, de participer à une certaine partie du retour sur investissement. Par contre, si le locataire n'a pas les moyens, eh bien, alors l'efficacité énergétique et l'amélioration énergétique sont les seuls moyens de se débarrasser des locataires qui ne peuvent plus se payer leur logement. Et donc voilà, il y a tout un ensemble de questions très complexes qui viennent s'enchevêtrer. Alors, ce qui s'est produit dans de nombreuses capitales, principalement, c'est que les prix augmentent très rapidement, ainsi que la qualité des logements qui y sont proposés. Et par conséquent, il y a un tri entre celles et ceux qui peuvent et qui ne peuvent pas se permettre de tels loyer. Et cette question est devenue très sensible sur le plan politique. Il y a de la pression pour augmenter les politiques de stabilisation et de contrôle qui sont beaucoup plus sophistiquées qu'elles ne l'étaient, plus ajustables que dans les versions précédentes. Mais elles ont toujours à terme un impact sur l'incitation à fournir des logements locatifs privés. L'incertitude et les conséquences imprévues ou involontaires suscitent d'ailleurs une inquiétude permanente. Il y a la question également de la distribution des revenus. Beaucoup de logements, de foyers à faible revenu ne peuvent pas se permettre d'investir pour remettre à niveau leur logement. Et donc, la question centrale, c'est encore la distribution, la répartition des revenus. Voilà. Merci beaucoup. Bon, c'était une présentation plutôt basée sur l'aspect historique, certes. Mais la question est de savoir comment mettre en place un système sophistiqué qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique et d'autres choses de ce genre, car beaucoup de foyers ne peuvent pas se permettre de payer de grandes quantités, d'investir de grandes sommes pour parvenir à ces objectifs. Voilà, merci.